Les coups de canon. Quelques barbes entrèrent dans sa loge, accompagnés d'une dame indifférente qu'il laissa s'installer au premier rang. Le premier acte commençait à peine quand la porte vitrée de la loge s'ouvrit et se ferma plusieurs fois dans un bruit de paroles. On empêchait quelqu'un d'entrer. L'une des barbes, la plus digne, s'en fut voir et parlementa quelques instants. « C'est pour vous, monsieur le professeur, » revint-il dire à Augustin. Surpris, celui-ci sortit et reconnut le vieil Adrien, environné d'ouvreuses méfiantes, parce qu'il n'avait pas de billet, et à cause de ce calot noir qui lui donnait un peu l'air d'un moine échappé. Augustin tenait au vieil Adrien, qui avait été l'infirmier du fils Larrey et qu'on laissait finir ses jours à l'hôpital où il rendait encore quelques services. « Il faut y aller, monsieur, ils sont dans la mélasse les jeunes, sale Dupuytren. » Hernie étranglée, vomissement fécaloïde, difficile moi je ne sais pas, mais ça pue partout, une jeune sœur a tourné de l'œil. On a pris des infirmiers, on entendait les premières notes du chant. Adrien disait simplement « Monsieur », comme font les internes et les chefs, les gens du métier. Augustin revit le malade dont il parlait, calcula les chances qu'il avait de le sauver. Cette interruption ne lui causait aucun déplaisir, au contraire. Il savait qu'au bout d'un acte, il aurait tourné dans la loge comme un animal en cage, l'esprit tout occupé d'alcosser. Il pensa « Dépêchons-nous, ou il va crever », les ouvreuses lui tendaient son manteau et ses gants avec respect. Elle n'était pas loin de considérer le vieil Adrien lui-même. La dame indifférente interrogea l'une des barbes à voix basse. Les deux hommes gagnèrent la nuit brumeuse. Ce fut à 7 heures seulement que Pierre s'assit à la terrasse d'un café du boulevard. Il se souvint avec plaisir de ses matins de garde à Port-Royal, de la statue du maréchal Ney chargeant les pigeons devant Bullier. Sans lui, encore une fois, rien n'eût été possible. Il n'en tirait pas de vanité, seulement un grand sentiment de paix, accru par le spectacle de la brume d'octobre se dissipant lentement autour du dôme et dans les cours de l'hôpital. Le garçon lui apporta du café, sans manifester de curiosité particulière. Par la blouse ouverte, on voyait bien le plastron de l'habit, mais ce spectacle était plutôt réconfortant. Pierre étira ses bras fatigués, et sortit des poches de sa blouse les manches amovibles de sa chemise de soie. Il se félicita d'avoir conservé la puissance de ses débuts, mais c'était comme un compliment qu'il aurait adressé à un autre que lui-même, par exemple à un éleveur de chevaux, connu pour prendre soin de ses bêtes. Une vieille ambulance s'engagea sur les pavés de bois de la première cour. C'était vers lui que tous s'étaient tournés maintenant qu'Alcossé avait disparu. Du temps de son maître, c'était pourtant lui, déjà, qui assurait la marche du service, d'où lui venait ce sentiment de nouveauté, pas seulement de l'air plus distant de la combe ou du silence des internes, mais de la conscience qu'il avait d'être passé en première ligne par hasard, à la suite d'un événement fortuit. Il voyait le hasard à l'œuvre mais ne l'aimait pas. Il s'était fait lui-même aux dimensions de sa vie. S'il tenait de son père l'idée que l'illusion de pouvoir la conduire est ridicule entre toutes, il avait toujours voulu n'être pas dépassé par la sienne, comme un homme qui aurait connu trop de malheurs volontaires. Or, il n'en avait pas connu, et ne s'expliquait pas bien à lui-même cette sagesse instinctive qui le faisait sourire. Il lui semblait seulement que c'était là le moyen de n'être pas entraîné de l'autre côté des choses, vers la mort. La silhouette de Marie-Antoinette Grigorieff l'occupa un moment. Elle avait l'air de celle qu'on n'oublie pas, il la craigne. Le boulevard s'animait, la brume dissipée. Pourquoi avait-elle disparu si vite? Il pouvait se flatter de ne pas savoir ce qu'est un homme. Il s'était vu changer d'un jour à l'autre, devenir chaque jour un autre étranger à lui-même. Il préférait ne pas y penser. Les contours de son père ou de Nathanael étaient moins imprécis, mais n'était-ce pas pure commodité de sa part, pour éviter de se colter à d'autres ombres? Alcossé n'était plus personne. Tout d'un coup, il fut frappé de la médiocrité des stratagèmes qui aident à accepter la vie. La vie, il l'aimait pourtant. Comme il l'aimait, les pieds baignés de sang, lorsqu'il opérait à demi-nu sifflant comme cette nuit les premières mesures de la force du destin. Mais l'objet de cet amour sitôt évoqué disparaissait. C'est le sort commun, pensa-t-il en se réchauffant les mains à la tasse brûlante. Puis, Alcosser aussi c'est le sort commun. Je déraille. Alcosser c'est le cul et la folie, rien de plus. Et il suivit un moment des yeux l'interne de garde qui rentrait chez lui. Lorsqu'il avait son âge, il travaillait sans arrêt. Comme c'est amusant de travailler, il n'avait pas raconté Bussy à son père, il l'avait quitté trop vite comme à son habitude. Sont-elles vraiment perdues, ces paroles retenues qui rendent si lourd, se réveillant, Alcosser ne comprit pas où il était. L'espace d'un instant, l'angoisse lui fut un petit coup de poinçon au cœur, puis il se rendormit. Le bureau de Klein ressemblait plutôt à un terrier d'alchimiste. Il n'était pas de ces psychiatres aux murs nus qui promènent sur toute chose un regard froid. On y voyait des livres, des papiers, des instruments, des vêtements même. La distraction de Klein était légendaire. Il lui arrivait de demander son chemin à l'intérieur de cet hôpital dont il connaissait parfaitement les détours. C'était l'heure de la première promenade du matin. Les fous n'allaient pas d'un point à un autre. Ils s'isolaient ou se regroupaient au gré de caprices mécaniques. L'un d'eux se frottait le dos au tronc d'un pologne, comme un vieil éléphant. On en voyait de tristes et de joyeux. Deux infirmiers se précipitèrent sur un qui prétendait se masturber. Il en faudrait beaucoup, désormais, pour étonner le docteur Klein.